Chapitre 64. Un homme d'extrême. Ils sortent du puits, deux hommes morts, un cœur entre leurs mains, et je sais que j'ai vu la gloire véritable. Kakasha 1173, 13 secondes avant la mort. Un tireur de pousse-pousse. Je n'arrivais pas à décider si vous étiez intéressé ou non, dit doucement Navani à Dalinar, tandis qu'il contournait d'un pas lent le terrain du palais surélevé des Lokar sur le champ de bataille. La moitié du temps, vous sembliez flirter, vous lanciez des allusions avant de vous défiler. L'autre moitié du temps, j'étais persuadé d'avoir mal interprété vos intentions. Et Gavilar était tellement direct, il préférait toujours s'emparer de ce qu'il désirait. Dalinar hocha la tête, songeur. Il portait son uniforme bleu, tandis que Navani était vêtue d'une robe d'un bordeaux discret à l'ourlet épais. Les jardiniers des Lokar avaient commencé à cultiver la flore locale. Sur leur droite, un morceau ondulé de schiste écorce jaune s'élevait à hauteur de la taille, comme une rampe. La plante évoquant la pierre était recouverte de petits bouquets de asper à la carapace nacrée, qui s'ouvraient et se refermaient lentement en respirant. Ils ressemblaient à des bouches minuscules qui parlaient en silence à la même cadence. Le chemin qu'empruntaient Dalinar et Navani montait tranquillement le long de la colline. Dalinar marchait avec les mains jointes derrière son dos. Sa garde d'honneur ainsi que l'éclair de Navani les suivaient. Quelques-uns semblaient intrigués par le temps que Dalinar et Navani passaient ensemble. Combien d'entre eux soupçonnaient la vérité? Tous? Une partie? Aucun? Quelle importance!
Je ne voulais pas vous troubler toutes ces années auparavant. J'avais l'intention de vous courtiser, mais Gavilar avait exprimé une préférence pour vous. Par conséquent, j'ai eu le sentiment que je devais m'effacer.
« Comme ça, sans rien dire ?» demanda Navani, l'air offensé.
Il n'avait pas conscience que j'étais intéressé. Il croyait qu'en vous présentant à lui, je lui indiquais qu'il devait vous faire la cour. C'était souvent comme ça que fonctionnait notre relation. Je découvrais des gens dont j'estimais que Gavilar devait les connaître, puis je les lui amenais. Je n'ai compris que trop tard ce que j'avais fait en vous donnant à lui.
En me donnant? Est-ce que j'ai une marque d'esclave sur le front dont j'ignorerais la présence?
Je ne voulais pas dire
« Oh, taisez-vous !» dit Navani d'une voix soudain affectueuse.
Dalinar étouffa un soupir. Bien que Navani ait mûri depuis leur jeunesse, ses humeurs avaient toujours été aussi changeantes que les saisons. En réalité, ça faisait partie de son charme.
Vous vous effaciez souvent pour lui? Demanda Navani.
Toujours.
Est-ce que ça ne finissait pas par devenir pénible?
Je n'y réfléchissais pas beaucoup, répondit Dalinar. Quand je le faisais, oui, j'étais frustré, mais c'était Gavilar. Vous savez comment il était. Cette force de volonté, cet air d'estimer naturellement que tout lui était dû. Il semblait toujours surpris quand quelqu'un lui refusait quelque chose ou que le monde lui-même ne se pliait pas à ses désirs. Il ne m'obligeait pas à m'incliner. La vie était comme ça, tout simplement.
Navani hocha la tête en signe de compréhension.
Quoi qu'il en soit, reprit Dalinar, je vous présente mes excuses pour vous avoir troublé. J'avais du mal à lâcher prise. Je crains d'avoir, de temps en temps, laissé mes vrais sentiments transparaître un peu trop.
« Eh bien, j'imagine que je peux vous le pardonner, » dit-elle. « Même si vous avez passé les deux décennies suivantes à vous assurer que je pensais que vous me détestiez. »
« Je n'ai rien fait de tel. »«
Ah non. Et de quelle autre façon devais-je interpréter votre froideur, la façon dont vous quittiez souvent la pièce à mon arrivée ?»«
Je cherchais à me maîtriser. » répondit Dalinar. J'avais pris ma décision.
En tout cas, ça ressemblait beaucoup à de la haine, dit Navani, même si je me suis demandé plusieurs fois ce que vous cachiez derrière ces yeux insensibles. Mais bien sûr, ensuite, chut, est arrivé.
Comme toujours, lorsque le nom de sa femme était prononcé, il ne le percevait que sous la forme d'un chuchotement, aussitôt chassé de son esprit. Il ne pouvait ni entendre ni se rappeler ce nom.
« Elle a tout changé, » dit Navani. « Vous sembliez réellement l'aimer. »«
En effet, » dit Dalinar.
« Il avait bien dû l'aimer, n'est-ce pas? Il ne se rappelait rien.
Comment est-ce qu'elle était ? Il s'empressa d'ajouter. Enfin, d'après vous, comment est-ce que vous la voyiez ?
Tout le monde aimait Ch, répondit Navani. Je faisais de gros efforts pour la détester, mais en fin de compte, je n'arrivais qu'à être légèrement jalouse.
Vous ? Jalouse d'elle ? Pourquoi donc ?
Parce que, répondit Navani, elle allait si bien avec vous, ne faisait jamais de commentaires inappropriés, ne brutalisait jamais ceux qui l'entouraient, restait toujours si calme.
Navani sourit.
Avec le recul, je me dis que j'aurais vraiment dû être capable de la détester, mais elle était tellement gentille.
Même si elle n'était pas très... comment dire ? Quoi donc ? Demanda Dalinar.
Pas très intelligente, compléta Navani.
Elle rougit, ce qui était rare chez elle.
Je suis désolée, Dalinar, mais c'est la vérité. Elle n'était pas stupide, mais comment dire ? Tout le monde ne peut pas être malin. C'était peut-être en partie ce qui faisait son charme.
Elle semblait croire que Dalinar en était offensé. Ne vous en faites pas, répondit-il. Vous êtes-vous étonné que je l'épouse ?
Qui aurait pu s'en étonner ? Comme je vous le disais, elle était parfaite pour vous.
Parce que nous étions assortis sur un plan intellectuel ? Demanda Dalinar avec ironie. Pas vraiment.
Mais vous l'étiez bel et bien en matière de tempérament. Pendant un moment, après avoir cessé d'essayer de la haïr, j'ai cru que nous pourrions être très proches, tous les quatre. Mais vous vous montriez tellement froid avec moi.
Je ne pouvais pas permettre que d'autres écarts vous fassent croire que j'étais toujours intéressé.
Il avait prononcé ces derniers mots avec une certaine gêne. Après tout, n'était-ce pas ce qu'il était en train de faire ? De commettre un autre écart ?
Navani le mesura du regard.
« Vous recommencez. »«
Pardon ?»«
À vous sentir coupable. »« Dalinar, vous êtes un homme formidable, honorable, mais vous avez vraiment tendance à vous apitoyer sur vous-même. »«
La culpabilité. »«
Une façon de s'apitoyer sur soi ?»«
Je n'y avais encore jamais réfléchi sous cet angle. »
Elle eut un sourire radieux.
« Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il.
« Vous êtes vraiment sincère, n'est-ce pas, Dalinar ?»«
J'essaie de l'être, » répondit-il.
Il regarda par-dessus son épaule.
« Bien que la nature de notre relation continue à perpétuer une forme de mensonge. »«
Nous n'avons menti à personne. Qu'ils pensent donc ou devinent donc ce qui leur chante ?»«
Vous avez sans doute raison. »«
J'ai souvent raison. » Elle se tut quelques instants. Est-ce que vous regrettez ce que nous avons ?
Non, dit sèchement Dalinar, surpris par la force de sa propre objection. Navani se contenta de sourire. Non, reprit-il plus doucement. Je ne le regrette pas, Navani. J'ignore comment continuer, mais je ne compte pas renoncer.
Navani hésitait près d'un amas de petits boutons de roche de la taille d'un poing, dont les lianes dépassaient comme de longues langues vertes. Ils formaient presque un bouquet. Qui poussait sur une grande pierre ovale placée près du chemin. « J'imagine que c'est trop demandé que vous ne vous sentiez pas coupable, » dit Navani. « Ne pourriez-vous pas céder, juste un peu ?»«
Je ne suis pas sûr d'en être capable, surtout en ce moment. Ce serait difficile de vous expliquer pourquoi. »«
Est-ce que vous pourriez essayer ? Pour moi ?»«
Je... Eh bien, je suis un homme d'extrême, Navani. » Je m'en suis rendu compte lorsque j'étais jeune. J'ai appris, à force de répétition, que la seule façon de contrôler ces extrêmes consistait à consacrer ma vie à quelque chose. D'abord, c'était Gavilar. Maintenant, les codes et les enseignements de Noadon. Ils sont les moyens par lesquels je m'entrave, comme les pierres qui entourent un feu, pour le contenir et le contrôler.
Il prit une profonde inspiration.
« Je suis un homme faible, Navani. Vraiment. Si je m'accorde un tant soit peu d'espace, je fais voler en éclats toutes mes interdictions. Ce qui m'a permis de rester fort depuis la mort de Gavilar, c'est de me conformer au code. Si je permets à cette armure de se fendiller, je risque de redevenir l'homme que j'étais autrefois, un homme que je ne veux plus jamais être. »
Un homme qui avait envisagé d'assassiner son propre frère pour obtenir le trône, et la femme qui avait épousé ce même frère.
mais il ne pouvait pas le lui expliquer, n'osait pas lui apprendre ce que son désir pour elle avait failli le pousser à commettre. Ce jour-là, Dalinar avait juré qu'il n'occuperait jamais le trône lui-même. C'était l'une de ses entraves. Pouvait-il lui expliquer comment, sans même le vouloir, elle tirait sur ses entraves? Comment il lui était difficile de réconcilier son amour de longue date pour elle et sa culpabilité d'avoir enfin pris pour lui-même ce pourquoi il avait renoncé longtemps auparavant au profit de son frère.
« Vous n'êtes pas un homme faible, Dalinar, » dit Navani.
« Si, mais la faiblesse peut imiter la force si elle est correctement entravée, tout comme la lâcheté peut imiter l'héroïsme si on ne lui donne nulle part où s'enfuir. »
« Mais il n'y a rien dans le livre de Gavilar qui nous l'interdise. Il n'y a que la tradition qui... »«
Ça me semble contre nature, » dit Dalinar. « Mais ne vous inquiétez pas, je vous en prie. Je le fais assez pour nous deux. Je vais trouver une solution pour que ça fonctionne. Je ne demande que votre compréhension. Ça prendra du temps. Quand je ferai preuve de frustration, ce ne sera pas à cause de vous, mais de la situation. »
« J'imagine que je peux l'accepter, à supposer que vous puissiez vivre avec les rumeurs. Elles ont déjà commencé. »«
Ce ne seront pas les premières rumeurs à me poursuivre, » dit-il. « Je commence déjà à m'inquiéter moins d'elle et davantage des Lokar. Comment allons-nous le lui expliquer ?»«
Je doute qu'il s'en rende compte, » dit Navani en reniflant doucement avant de se remettre en marche. Il fait une telle fixation sur les Parchendi et, de temps à autre, sur l'idée que quelqu'un dans son camp cherche à le tuer.
La situation actuelle risquerait d'y contribuer, dit Dalinar. Il pourrait voir un certain nombre de conspirations dans le fait que nous commencions une relation.
Eh bien, il...
Des corps retentirent bruyamment en bas. Dalinar et Navani s'arrêtèrent pour écouter et identifier l'appel. « Père des tempêtes, » dit Dalinar. « C'est à la tour elle-même qu'un démon des gouffres a été vu. C'est l'un des plateaux que Sadeas surveillait. »
Dalinar sentit la surexcitation l'envahir. « Les hauts princes ont systématiquement échoué à y remporter un cœur de gemme. Ce sera une victoire majeure si nous y parvenons ensemble. » Navani sembla troublée. « Vous avez raison à son sujet, Dalinar. Nous avons effectivement besoin de lui pour notre cause. Mais gardez-le à distance. »
« Souhaitez-moi la faveur du vent. » Il tendit la main vers elle, mais se reprit.
Qu'allait-il faire? L'étreindre ici, en public? Voilà qui ferait courir les rumeurs comme un feu sur une flaque d'huile. Il n'était pas prêt pour ça. Il s'inclina donc plutôt devant elle, puis s'empressa d'aller répondre à l'appel et récupérer sa cuirasse d'éclat. Ce ne fut que lorsqu'il eut parcouru la moitié du chemin qu'il prit le temps de réfléchir aux termes choisis par Navani.
« Nous avons besoin de lui pour notre cause. »
Quelle était leur cause?
Il doutait que Navani le sache davantage que lui, mais elle commençait déjà à les considérer comme unis dans leurs efforts, et il s'aperçut que lui aussi. Les corps résonnaient, un son pur et magnifique signifiant l'imminence du combat. Ils suscitèrent un mouvement d'agitation dans le dépôt de bois. Les ordres étaient tombés. La tour devait être à nouveau attaquée, l'endroit même où le pont 4 avait échoué, où Kaladin avait provoqué une catastrophe. Le plus grand des plateaux, le plus convoité. Les hommes de pont couraient dans tous les sens pour aller chercher leurs gilets. Les charpentiers et les apprentis s'écartaient brusquement. Matal criait des ordres. Les attaques, elles-mêmes, étaient la seule occasion où ils le faisaient sans achal. Les chefs de pont, témoignant d'un minimum d'autorité, hurlaient à leurs équipes de se mettre en rang. Un vent violent fouettait l'air, charriant dans le ciel des éclats de bois et des morceaux d'herbe sèche. Les hommes s'époumonaient, les cloches sonnaient, et au cœur de ce chaos marchait le pont 4, avec Kaladin à sa tête. Malgré l'agitation, les soldats s'arrêtèrent, les hommes de pont restèrent bouche bée, les charpentiers et les apprentis s'immobilisèrent. 35 hommes marchaient en armure de carapace d'un orange rouille, habilement façonnés par Leyten pour se fixer sur les casques et les gilets de cuir. Ils avaient taillé des grèves et des canons pour compléter les plastrons. Les hommes étaient faits à partir de plusieurs casques différents et avaient été agrémentés, sur l'insistance de Leyten, de sillons et d'encoches, pareils à des cornes minuscules ou à des bordures de carapace de crabe. Les plastrons, les grèves et les canons étaient décorés eux aussi, taillés selon des motifs dentelés évoquant la lame d'une scie. Jack sans oreille avait acheté de la peinture bleue et blanche et tracé des motifs sur l'armure orange. Chaque membre du pont 4 portait un grand bouclier de bois auquel étaient fixés, fermement cette fois, des os rouges de Parchendi. Des côtes, pour la plupart, disposées en motifs de spirale. Certains des hommes avaient attaché des phalanges au milieu, afin de les faire cliqueter, et les autres avaient fixé des côtes saillantes sur les côtés de leurs casques, leur donnant l'apparence de mandibules ou de crocs. Les spectateurs étaient stupéfaits. Ce n'était pas la première fois qu'ils voyaient ces armures, mais c'était la première course où chaque homme du pont 4 en portait. Tous ensemble, ils offraient un spectacle frappant. 10 jours, avec 6 courses au pont, avaient permis à Kaladin et à son équipe de perfectionner leur méthode. 5 hommes pour jouer les appâts, avec 5 autres à l'avant, munis de boucliers et n'utilisant qu'un bras pour tenir le pont. Leurs effectifs étaient complétés par les blessés qu'ils avaient sauvés dans d'autres équipes, désormais assez forts pour aider à porter le pont. Jusqu'à présent, malgré 6 courses au pont, il n'y avait pas eu un seul mort. Les autres hommes de pont parlaient de miracles à mi-voix. Kaladin ne savait pas si c'était le cas. Il s'assurait simplement de garder sur lui en permanence une bourse pleine de sphères infusées. La plupart des archers Parchendi semblaient se concentrer sur lui. D'une manière ou d'une autre, il semblait savoir qu'il se trouvait au cœur de tout ça. Ils atteignirent leur pont et se mirent en formation, leurs boucliers attachés au poignet latéral en attendant qu'ils les utilisent. Tandis qu'ils soulevaient leur pont, une vague d'acclamations s'éleva spontanément des autres équipes.
« C'est nouveau, ça !»
dit Teft sur la gauche de Kaladin. « Sans doute qu'ils ont fini par comprendre ce que nous étions, » dit Kaladin.
« C'est-à-dire ?»
Kaladin installa le pont sur ses épaules. « Nous sommes leurs champions. Avancez le pont !» Ils se mirent à trottiner, ouvrant la marche pour sortir de la cour de rassemblement, accompagnés par des vivats.
« Mon père n'est pas fou, » se dit Adeline, débordant d'énergie et d'excitation, tandis que ses armuriers lui enfilaient sa cuirasse d'éclat.
Adeline avait médité la révélation de Navani pendant des jours. Il avait commis une terrible erreur. Dalinar Colin ne devenait pas faible. Il ne devenait pas sénile. Ce n'était pas un lâche. Dalinar avait eu raison, et Adeline avait eu tort. Après un long examen de conscience, Adeline avait pris une décision. Il se réjouissait d'avoir eu tort. Avec un sourire, il plia les doigts de sa main gantée de plate tandis que les armuriers passaient à l'autre côté. Il ignorait ce que signifiaient les visions, ou quelles en seraient les implications. Son père était une sorte de prophète, ce qui représentait une perspective intimidante. Mais pour l'heure, il lui suffisait de savoir que Dalinar n'était pas fou. C'était le moment de lui faire confiance. Le père des tempêtes savait que Dalinar avait gagné ce droit de la part de ses fils. Les armuriers en finirent avec la cuirasse d'Adeline. Lorsqu'ils s'écartèrent, Adeline quitta précipitamment l'armurerie pour gagner la lumière du jour, s'habituant à la force, à la vitesse et au poids conjugué de la cuirasse d'éclat. Nitter et 5 autres membres de la garde Cobalt s'approchèrent à la hâte, l'un d'eux lui amenant 100 hardis. Adeline prit les rênes mais mena tout d'abord le richadium à pied afin d'avoir davantage de temps pour s'adapter à sa cuirasse. Ils atteignirent bientôt le point de rassemblement. Dalinar, vêtu de sa cuirasse, s'entretenait avec Teleb et Ilamar. Il semblait les dominer de très haut, tandis qu'il désignait un point à l'ouest. Déjà, des compagnies de soldats sortaient se placer au bord des plaines. Adeline s'approcha de son père, impatient. Non loin de là, il aperçut une silhouette qui chevauchait le long de la bordure est des camps de guerre. Elle était vêtue d'une cuirasse d'éclat rouge luisante. « Père, » dit Adeline en la montrant du doigt, « que fait-il ici? Ne devrait-il pas attendre qu'on le rejoigne dans son camp ?» Dalinar leva les yeux. Il fit signe à un valet d'amener Vaillant, et tous deux montèrent en selle. Ils s'en allèrent intercepter Sadeas, suivi d'une 12aine de membres de la garde Cobalt. Sadeas voulait-il annuler l'attaque? Redoutait-il d'échouer de nouveau contre la tour? Lorsqu'ils approchèrent, Dalinar arrêta son cheval.
Vous devriez vous mettre en mouvement, Sadeas. La vitesse a son importance. Si nous devons atteindre le plateau avant que les Parchendi ne prennent le cœur de Gem et ne s'en aillent.
Le haut prince acquiesça. « Je suis d'accord, en partie. Mais nous devons nous entretenir d'abord. Dalinar, c'est la tour que nous sommes en train d'attaquer. » Il semblait impatient. « Oui, et alors ?»« Damnation !» s'exclama Sadeas. « C'est vous qui m'avez dit que nous devions trouver un moyen de piéger une grande armée de Parchendi sur un plateau. La tour est parfaite. Ils y amènent toujours une grande armée. Et deux des côtés sont inaccessibles. » Adeline se surprit à hocher la tête. « Oui, dit-il. Père, il a raison. Si nous parvenons à les coincer et à les frapper fort... » En temps ordinaire, les Parchendi prenaient la fuite quand ils subissaient de larges pertes. C'était l'un des facteurs à cause desquels la guerre se prolongeait si longtemps. « Ça pourrait être un tournant dans cette guerre, » dit Sadeas, une flamme dans le regard. « Mes scribes estiment qu'il ne leur reste pas plus de 20 ou 30 000 soldats. Les Parchendi vont en envoyer 10 000 ici, c'est ce qu'ils font toujours. Mais si nous parvenons à les cerner et à tous les tuer, nous pourrions quasiment détruire leur capacité à faire la guerre dans ces plaines. « Ça va marcher, père. » affirma Adeline avec enthousiasme. « Il pourrait s'agir de ce que nous attendions, de ce que vous attendiez. » Une manière de faire basculer le déroulement de la guerre, d'infliger assez de dégâts aux Parchendi pour qu'ils ne puissent plus se permettre de continuer à se battre. « Nous avons besoin de soldats, Dalinar, » dit Sadeas. « En grand nombre. Combien d'hommes pourriez-vous envoyer au maximum ?»« Dans l'immédiat ?» demanda Dalinar. 8 000, peut-être. Il faudra que ça fasse l'affaire, répondit Sadeas. Je me suis arrangé pour en mobiliser dans les 7 000. Nous allons tous les amener. Envoyez vos 8 000 dans mon camp, et nous prendrons chacun des membres de mes équipes de pont et marcherons ensemble. Les Parchendi arriveront là-bas les premiers. C'est inévitable avec un plateau si proche de leur côté. Mais si nous sommes assez rapides, nous pourrons les cerner sur le plateau. Et alors, nous leur montrerons ce dont une vraie armée Aleti est capable. Je refuse de risquer des vies sur vos ponts, Sadeas, dit Dalinar. Je ne crois pas pouvoir donner mon accord pour une attaque entièrement conjointe. Bah, dit Sadeas, j'ai une nouvelle manière d'utiliser les hommes de pont qui coûte nettement moins de vie. Le nombre de victimes parmi eux est devenu quasiment nul.
Vraiment ? Demanda Dalinar. Est-ce grâce à ces hommes de pont en armure? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis?
Sadeas haussa les épaules.
Peut-être que vous commencez à déteindre sur moi. Quoi qu'il en soit, nous devons partir à présent. Ensemble, avec le nombre de soldats qu'ils auront, je ne peux pas risquer de les attaquer et d'attendre que vous nous rattrapiez. Je veux que nous y allions ensemble et que nous attaquions aussi près l'un de l'autre que possible. « Si vous vous inquiétez toujours pour les hommes de pont, je peux attaquer d'abord, prendre l'avantage, puis vous laisser traverser sans risquer leur vie. »
Dalinar parut songeur. « Allez, père !» songea Adeline. « Vous attendiez une occasion d'infliger un grand coup au Parchendi. La voici !»«
Très bien, » dit Dalinar. « Adeline, envoie des messagers mobiliser les divisions 4 à 8. » Prépare les hommes à se mettre en marche. Mettons fin à cette guerre.